Donc, on continue. On avait commencé à parler de l'espérance dans le chapitre, attendez un peu, chapitre 5, 6, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 11. Puis, après ça, on avancera. On parle encore du souverain, de l'espérance que Dieu nous donne avec la promesse et le serment qu'il a fait. On avait commencé, ce qu'on lit à partir du chapitre 6 au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était promise, proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Seigneur, vous bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide maintenant. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce soir, réunis ensemble, notre Dieu, autour de ta parole, en s'attendant de toi, Seigneur. Merci parce que tu nous révèles des choses grandes et merveilleuses. Merci, Seigneur, parce que la vie de la foi, c'est une vie d'assurance, une vie de certitude, parce que c'est toi, Seigneur, qui a fait la promesse. C'est toi qui as donné un serment aussi afin qu'on puisse avancer. Puis on te remercie, Seigneur, que on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans l'incertitude, on est dans la sûreté parce que tu nous as fait la promesse. Puis on veut avancer, Seigneur, on veut être ce que toi tu veux qu'on soit, Seigneur, et ne pas perdre de temps, mais vraiment avancer toujours plus dans ta présence pour accomplir ton œuvre. On te remercie. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. On te rend grâce pour chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça, on avait commencé à parler de l'espérance parce que on est sauvé. On a la certitude du salut, mais on a une espérance qui ne peut pas manquer. Donc, il nous faut persévérer dans la foi, persévérer avec le Seigneur, pas pour avoir la certitude du salut, parce que la sécurité éternelle du croyant, c'est le Seigneur Jésus qui la détient pour nous. Puis, on est parfaitement en pleine sécurité. Mais il faut avancer pour la victoire dans la vie chrétienne. Avancer quand on a la certitude que comme Paul dit à la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, on avait commencé à parler de ça, de cette espérance-là. Mais au verset 17, du chapitre 6, ici, il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. C'est remarquable comment le Seigneur nous donne la certitude, parce qu'il sait qu'on est porté à douter, il sait qu'on est, comme Thomas avait dit, il dit, si je ne mets pas mon doigt dans le trou de ses mains, ma main dans son côté, je ne croirais pas. Mais on sait que mais le Seigneur, il veut qu'on ait la certitude, puis il nous a donné ce qu'il fallait pour nous assurer. Donc ici, il est question de deux choses dans le verset 17, là. Il avait fait une promesse, puis il est intervenu ensuite par un serment. On va regarder ça. La promesse, c'est ce qu'on a mis notre foi dedans, c'est que si on croit au Seigneur Jésus, on a la vie éternelle. Donc ça, c'est la promesse, elle nous fait entrer dans la possession, mais le serment, lui, il nous fait persévérer. Quand on est entré, après ça, le Seigneur nous donne un serment pour qu'on puisse avancer, puis ne pas reculer en arrière, mais aller de l'avant. C'est ça qui est important. C'est toi qui nous as donné un serment. Donc, on met notre foi dans la promesse de Dieu pour le salut, mais on persévère à cause du serment pour obtenir ce qui est promis. C'est pas nécessairement le salut, mais c'est la victoire. Puis on sait que dans l'Épître aux Hébreux, il est question de cette vie victorieuse du croyant. Parce qu'un croyant peut vivre une vie qui n'est pas victorieuse. Il peut vivre, se laisser dominer par le péché, mais on a ce qu'il faut pour pouvoir avancer puis avoir la victoire sur le péché. C'est ça qui est important, d'avoir la victoire sur le péché, afin que on ne gâche pas notre vie, mais que vraiment on l'investisse pour la gloire du Seigneur. Donc on persévère. Le Seigneur nous a donné un serment pour obtenir ce qui était promis, les promesses qu'il nous avait faites. Fait que Dieu, il veut qu'on ait une pleine assurance, parce que c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans la foi. Si on n'a pas la foi, si on est dans le doute, on n'aura pas la victoire dans la vie chrétienne. On a besoin d'être sur un fondement solide. On a besoin d'avancer avec certitude. C'est ça qui est important ici. Par rapport à Abraham, dans Romains 4, verset 20, 21, il dit: Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est en rapport avec Abraham, parce que là, il se réfère aussi à Abraham dans la promesse, parce que Abraham est comme un prototype de la foi, parce que c'est Abraham, c'est de lui qu'il était dit, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est la justice qui est imputée à cause de la foi. Puis Abraham, pour nous, est un exemple de cela. Il est le prototype. Mais Abraham, il avait eu la promesse après avoir délivré Lot. Si on va dans Genèse au chapitre 15, on va voir en ce moment-là, c'est là que Abraham a eu la promesse. Puis c'était après que les rois étaient venus pour attaquer Sodome, puis qu'ils avaient emmené captif Lot, puis étaient allés pour combattre, puis ramener Lot, puis ramener les biens aussi, puis les personnes de Sodome. Il avait eu la victoire. Puis, c'est pour ça que quand on commence le chapitre 15 de Genèse, au verset 1, il nous dit, après ces événements, donc les événements, c'était le combat qu'Abraham avait livré à ces rois-là qui avaient pris des captifs pour récupérer les captifs, récupérer Lot, son neveu, et aussi tous les biens qu'ils avaient pris. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Puis ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu lui a fait une promesse qu'il aurait une postérité et que ce n'est pas son intendant, son serviteur, Éliézer de Damas, qui serait héritier d'Abraham, mais il aurait vraiment un fils qui serait né de lui. Au verset 6, la réponse d'Abraham à la promesse de Dieu. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, on voit le transfert ici, la promesse que Dieu avait faite. Abraham l'a reçue par la foi. Puis, quand il l'a reçue par la foi, Dieu a mis à son compte, c'est ça que ça veut dire imputer, il a mis à son compte la justice, pas la justice propre d'Abraham, mais la justice qui vient de Dieu, la justice qu'on a besoin. La justice que le Seigneur a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais c'est ça qui était la justice qui vient de Dieu par la foi, une justice qui est imputée. Donc, Abraham a répondu par la foi à la promesse que Dieu lui avait faite. Puis, comme on voit dans le verset 13 d'Hébreux 6, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Mais ensuite, Dieu va faire un serment en jurant par lui-même dans Genèse au chapitre 22. Là, l'événement qui est ici, c'est quand il a offert son fils Dieu lui a demandé d'offrir son fils, celui de qui Dieu avait fait la promesse qu'il lui aurait un héritier. Eh bien, Abraham était mis à l'épreuve. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Et Abraham, par la foi, était capable d'aller pour offrir son fils. Puis on sait que le Seigneur l'a arrêté. Puis il a pris un bouc, un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson. Puis il l'a offert à la place d'Isaac. Mais Abraham avait la certitude, comme il nous dit dans Hébreu, qu'il savait que si son fils devait mourir, mais Dieu était capable de le ressusciter parce qu'il avait fait une promesse. Puis Abraham croyait à cette promesse-là. Voyez-vous, dans le chapitre 22 de la Genèse, les versets 15 à 17, il dit: L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même. Quand il parle de l'ange de l'Éternel, on sait dans l'Ancien Testament que l'ange de l'Éternel, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans une forme avant son incarnation. On sait qu'un jour, il est devenu un homme, il a paru comme un vrai homme, il est né d'une vierge, mais avant, il apparaissait comme l'ange de l'Éternel. C'est pour ça qu'on voit qu'il parle comme étant Dieu lui-même, il reçoit l'adoration. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même. Et parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc ici, là, il intervient par un serment. Il a fait la promesse auparavant. Abraham a cru, ça a été imputé à justice. Maintenant, il est capable d'avancer jusqu'au point d'offrir son fils parce que le Seigneur lui a fait un serment ici, puis il a juré par lui-même. C'est sûr que on peut pas, on jure par plus grand que soi, mais il est impossible que Dieu jure par plus grand que lui parce que c'est lui qui est le plus grand. Mais au verset 18, il nous dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, il dit ici, il est impossible que Dieu mente. Puis, c'est le même mot que dans le verset 4, on voit qu'il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui soient renouvelés et amenés à la repentance. Mais ici, il dit, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible. Donc, Dieu, il a juré par lui-même, puis il a donné de l'assurance par deux choses immuables ici, comme il est dit, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Mais après ça, au verset 19 à 20, il dit, il nous parle de l'espérance ici. Parce qu'elle est fondée sur une meilleure alliance, elle est fondée sur un meilleur sacrificateur. Donc, on a une espérance qui est solide. C'est important ici, comme il dit au verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, quand on parle de l'ancre, c'est important de comprendre l'image qu'il nous donne. Nous, on pense à une ancre d'un bateau, c'est pour nous empêcher de dériver. Mais ici, c'est pas l'image qui est donnée ici, parce que nous, on pense à un bateau, il jette l'ancre pour ne pas dériver. Mais dans le temps des bateaux à voile, l'ancre était utilisée d'une façon différente. C'est que le bateau à voile ne pouvait pas entrer dans le port avec les voiles parce que c'était plus dur de contrôler la puissance du vent en rentrant. Puis quand on rentre dans un port maintenant avec des bateaux à moteur, bien, on peut baisser la puissance du moteur pour rentrer tranquillement dans le port. Mais avec les voiles, c'était impossible. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on approchait du port, puis avec un petit bateau, on prenait l'ancre. Puis là, on ramait pour aller porter l'ancre dans le port. Puis on ancrait, on mettait l'ancre bien attachée solidement dans le port. Puis ensuite de ça, avec des treuils, là maintenant, ils pouvaient faire avancer le bateau pour le faire entrer dans le port. C'est l'image qu'on a ici de cette espérance-là quand il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Fait qu'il fallait que cette ancre-là soit attachée bien fermement dans le port. Puis ensuite, avec les treuils, on pouvait tirer le bateau dans le port. C'est l'image qu'on a ici, le Seigneur Jésus étant cette ancre-là qui est entrée au-delà du voile pour nous. Le Seigneur Jésus est déjà rendu dans le port pour nous. C'est lui qu'on est attiré par lui dans le passé. C'est pour ça que c'est une, comme il dit ici, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle est bien ancrée dans le port, cette ancre-là. Puis c'est certain on va être amené dans le port parce que lui est solide. C'est pour ça que c'est important ici. C'est ça que le Seigneur Jésus est au-delà du voile. Lui, il est au-delà du voile pour nous dans la présence de Dieu. C'est à cause de lui que nous, on va être introduits. Ça, c'est la garantie. C'est pour ça que c'est une espérance sûre et solide. C'est pour ça que c'est une ancre de l'âme puis qui nous donne cette certitude-là qu'on a besoin aujourd'hui. Imaginez-vous si on était dans le monde avec on comment que je pourrais dire, d'autres on dit on espère être au ciel, mais dans la façon biblique, espérer, c'est d'être sûr, c'est juste une attente. Mais c'est comme si on n'avait pas la certitude d'être au ciel. Imaginez quelle sorte de vie qu'on pourrait vivre. On pourrait faire toutes sortes de choses, puis ça ne donnerait rien si on finit dans l'étang de feu. Mais à cause de la certitude qu'on a, on sait que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça nous donne une plus grande énergie. C'est qu'il y a des gens qui pensent que la sanctification se fait mieux quand on a une peur de ne pas être sauvé. Mais quand on a peur de ne pas être sauvé, ça ne sanctifie pas. Ce qui sanctifie vraiment le croyant, c'est l'assurance qu'on a qu'on est sauvé pour l'éternité. Puis le Seigneur, il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse vraiment avoir cette certitude-là pour pouvoir avancer dans cette puissance-là de la foi pour hériter les promesses. C'est important ici. Puis là, c'est le sujet du souverain sacrificateur là, dans le chapitre 6 au verset 3, on avait lu. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Là, il parlait du sacrificateur, mais là, il revenait aux éléments de la parole de Dieu, puis il disait qu'il allait revenir au sacrificateur. Puis là, c'est ça qu'on vient, là. On retourne au sacrificateur dans le chapitre 7, qui nous parle d'un sacrificateur qui est selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron et du service lévitique qui avait été institué dans l'Ancien Testament. Donc, on a parlé de ce sacrificateur-là selon l'ordre de Melchisédek. On en a parlé, on était juste revenu en arrière pour vérifier, pour regarder cette parenthèse-là qu'on avait dans le chapitre. Puis là, maintenant, on avance. On va aller maintenant dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8, on va lire les versets 1 à 5 pour commencer. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et vous ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce qu'on voit ici, là, c'est que c'est maintenant le tabernacle ou la présence de Dieu ici, c'est le réel. Alors, il fait la comparaison avec le sanctuaire terrestre, mais parce qu'il nous dit que le sanctuaire terrestre était seulement une imitation du véritable. C'est pour ça on entre de ce qui est plus excellent dans ce qui est meilleur, parce qu'on entre dans la réalité. Ce n'est pas une imitation, mais c'est vraiment la réalité ici qu'on voit là. C'est le véritable tabernacle. On va en venir avec une meilleure alliance. Et là, maintenant, il nous montre que ce n'est pas dans un culte qui était image et ombre des choses à venir, mais c'est la réalité maintenant en Jésus-Christ. C'est plus grand. Du fait que le Seigneur est plus grand ou plus excellent sacrificateur, c'est ce qui fait que l'alliance est encore plus excellente. Voyez-vous, dans le chapitre 4, on avait lu au verset 14. Il avait dit ici, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur On avait dit à ce moment-là que c'est le seul endroit où on voit ce terme, un grand souverain sacrificateur, puis ça s'attribue au Seigneur Jésus. Et un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Donc, lui, il n'a pas traversé le sanctuaire terrestre, il a traversé le sanctuaire céleste. Puis c'est ça qui fait que c'est une meilleure alliance ici, là. Le problème, c'est que Israël ont manqué un détail très important par rapport au tabernacle. On sait que pour Israël, le tabernacle, c'était quelque chose de vraiment solennel. Le temple aussi, c'était quelque chose de solennel. On ne faisait pas les choses à la légère dans ce sanctuaire terrestre-là, parce qu'on savait qu'il était puni de mort, parce que dès le début, les fils d'Aaron qui ont rentré dans le sanctuaire pas avec le sérieux ou l'effet solennel, la révérence, eh bien, ils ont été frappés à mort. Puis, on avait toujours cette crainte-là en entrant dans le tabernacle. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est mort, puis que le voile du temple a été déchiré, c'était impensable pour eux de pénétrer au-delà du voile. Mais là, on a vu, nous autres, que le Seigneur Jésus est comme une encre de lampe qui, lui, est pénétrée au-delà du voile, puis que maintenant, nous, on peut pénétrer au-delà du voile. On dit qu'après que le Seigneur Jésus est mort, que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, qu'on l'a recousu, le voile, parmi les Hébreux, dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils ont manqué? Les autres, le détail très important qu'ils ont manqué par rapport au tabernacle, c'est qu'il était seulement une imitation ou un modèle du vrai. Le vrai était beaucoup plus grand que cette imitation-là qui les a suivis dans le désert. Même si c'était quelque chose de merveilleux, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis le temple aussi, c'était quelque chose de grandiose dans sa beauté, dans sa richesse, dans sa grandeur, dans la révérence à cause de la présence du Seigneur. Mais ces choses-là étaient seulement une image du véritable. En imitation. Puis, on le voit dans le chapitre ici, là, dans le verset 2. Le chapitre 8, verset 2, il dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais oui, il compare ce sanctuaire-là qui est véritable dans le ciel. Et c'est pas que ce qui a été construit par un homme. Dans le verset 5, il dit, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, un soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On voit ça, il fait toujours la comparaison entre ce qui était dans le ciel puis l'imitation qui était sur la terre. Voyez-vous, dans le chapitre 9 au verset 11, chapitre 9 au verset 11, il nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. D'accord, là, on voit la comparaison faite avec le réel et avec ce qui avait été fait en imitation ou qui avait été construit selon le modèle. Verset 24 maintenant du chapitre 9, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Tout le temps, quand il parle du sanctuaire fait de main d'homme, il parle de celui qui était sur la terre. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voyez-vous la différence entre ce qui était pour Israël dans l'Ancien Testament et maintenant? C'est pour ça que c'est meilleur, parce que là, on avance dans le réel, on avance dans ce qui est dans le ciel, dans ce qui a été montré, ce que Moïse avait vu dans le ciel. Donc, toutes les ordonnances d'avant n'étaient qu'image et ombre des choses célestes, comme on a vu au verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, c'est une imitation. C'est pour qu'ils puissent comprendre. Dieu avait fait ce tabernacle-là, ce sanctuaire terrestre-là, pour les aider à comprendre. Donc, il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent à celui qui était sur la terre. Il fallait qu'ils puissent connaître par celui qui était sur la terre, qu'ils puissent connaître la réalité dans le ciel même. C'est important de comprendre ça. Le mot alliance revient fréquemment dans l'Épître, là. Parce que là, on va parler d'une alliance, une meilleure alliance, une alliance plus grande, plus excellente. Donc, le mot alliance revient fréquemment dans l'Épître. C'est sûr que l'alliance, c'est ce qui est important, là. On pense à le sacrificateur, il appliquait l'alliance. Le sacrifice, c'était pour garantir l'alliance. Donc, le messager avait donné un message pour nous faire connaître cette alliance-là. Donc, c'est de ça qu'il nous parle. L'alliance est très importante dans l'Épître aux Hébreux parce que l'alliance, c'est une alliance que Dieu a faite pour nous. Dans le chapitre 7, au verset 22, il nous parle d'une alliance plus excellente. Chapitre 7, 22, il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Dans le chapitre 8, au verset 6, il dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Maintenant, il parle d'une nouvelle alliance dans le chapitre 8, au verset 8. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, là, il parlait d'une alliance plus excellente. Maintenant, il parle d'une alliance nouvelle. Dans le chapitre 9, au verset 15, il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est encore, il utilise le terme nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc ici, c'est une nouvelle alliance aussi. Dans le chapitre 12, au verset 24, aussi, il va parler d'une alliance nouvelle. 12 au verset 24, il dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, on avait une alliance plus excellente. Il nous parle d'une nouvelle alliance. Puis, au chapitre 13 et au verset 20, il nous parle d'une alliance éternelle. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus. Donc, c'est une alliance qui est plus excellente, c'est une alliance nouvelle, c'est une alliance éternelle. C'est ça qui nous parle ici. Mais ce sacrificateur-là, si grand, là, il y a une chose qui est merveilleuse. Au chapitre 8, au verset 1, il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons. Ça, c'est important de comprendre. Donc, ce sacrificateur-là, il est nôtre. Parce qu'il dit, nous avons. Comme il dit ici, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est merveilleux, on le compte nôtre ici, là. Il nous a été donné par Dieu. Nous avons un sacrificateur. Ça, c'est grand. Mais il est aussi avec Dieu dans la présence de Dieu même. Comme on a parlé, qui était comme un ancre de l'âme, il est dans le lieu très saint, pas celui qui avait été fait en imitation sur la terre, mais celui qui est dans le ciel. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est le seul qui fait la connexion entre l'au-delà, entre le ciel, la présence de Dieu et nous autres, les pécheurs, à cause de cette alliance-là qui est basée sur des plus grandes promesses, puis une alliance plus excellente, une alliance nouvelle. Pardon, puis une alliance éternelle. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. On sait que dans la religion, il nous parle d'une co-rédemptrice. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Il y a un seul. Il y a co-médiatrice. Il n'y a pas de co-médiatrice. Il y a un seul médiateur. C'est complètement en contradiction avec la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, parce qu'il est Dieu et qu'il est homme à la fois, il fait la connexion entre Dieu et l'homme. Puis ceux qui cherchent ailleurs une connexion avec Dieu, le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui a le Fils a le Père, puis nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul chemin. Aussitôt qu'on met quelqu'un d'autre, mais c'est une fausse religion. Parce que le seul qui est ici pour nous, c'est le seul, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est bien important. C'est pour ça qu'on peut pas, c'est pas qu'on ajoute le Seigneur Jésus aux autres qu'on a. On rejette toutes les autres pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est bien important. Le Seigneur Jésus ne partage pas sa gloire avec un autre. Dans le chapitre 8, verset 2, il dit, le tabernacle qui est sur la terre avait été dressé par des hommes, suivant la direction d'un homme, ayant vu le véritable sur la montagne. Ça, c'est Moïse ici qui est question. Moïse, il a eu le privilège de voir, lui, le vrai tabernacle dans le ciel, la présence de Dieu même. Moïse l'avait vu sur la montagne. Ensuite, Moïse, on voit toujours qu'il lui avait été dit, lui fut dit de faire bien attention de construire le tabernacle selon le modèle. Il dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est pour ça qu'il parle de celui sur la terre dressé par un homme. Parce que Moïse avait donné les instructions à des gens, à des hommes qui avaient été, eux, qualifiés par le Seigneur, qui avaient eu des dons pour être capables de travailler d'une façon artistement les choses, parce qu'il y avait des tissus, il y avait des métaux précieux, il y avait des choses vraiment précieuses qui devaient être accomplies. Puis Dieu avait donné des dons à ces hommes-là, puis Moïse leur a donné l'instruction pour qu'ils construisent comme ils l'avaient vu sur la montagne. Parce que dans le chapitre 5, dans le chapitre 8, au verset 5, à la fin, il dit, aie soin, c'était bien important, aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est sûr, quand on lit dans l'Ancien Testament tous les détails du tabernacle, on peut s'en faire une idée un peu. Mais imaginez-vous, lui qui avait vu la réalité, il avait vu le véritable tabernacle, mais là, il comprenait encore mieux les instructions qui lui étaient données. Puis il devait faire en sorte que ces hommes-là, qui eux n'avaient pas vu le modèle sur la montagne, bien, il leur disait, non, ça, c'est pas la façon que c'était sur la montagne. Il faut que vous le fassiez de l'autre façon pour que ce soit en imitation du véritable. C'était vraiment important. Mais pour avoir. C'est pour ça que c'était. On voit dans le verset 3, là, c'est un besoin pour un sacrifice. Il dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. Donc, on voit ici l'importance du sacrifice ici, là. Le besoin de sacrifice par un plus excellent sacrificateur pour offrir ce sacrifice-là, officiant dans un plus excellent sanctuaire. Donc, on a un plus excellent sacrificateur qui officie dans un plus excellent sanctuaire, puis il offre un plus excellent sacrifice. Voyez-vous, ça va tout ensemble. Si le sanctuaire, c'est sûr que le sanctuaire céleste n'aurait pas reçu un sacrificateur qui n'était pas plus excellent parce que le sanctuaire était plus excellent. Donc, pour s'approcher, il fallait que ce soit un plus excellent sacrificateur qui officiait dans ce plus excellent sanctuaire-là et il devait offrir un sacrifice plus excellent aussi. C'est ce qu'on va voir dans les chapitres 9, 23 à 10, 39, le plus excellent sacrifice. Comme par une seule offrande, il l'a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est tout ça, ça va tout ensemble. Donc, on n'est plus dans le sanctuaire terrestre, on est dans le sanctuaire céleste. Puis, toutes les choses, il faut qu'elles soient plus excellentes. Selon le verset 4 du chapitre 8, il dit, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. On voit le Seigneur Jésus est dans le ciel. Il officie dans le ciel. Il officie dans ce plus excellent sanctuaire-là. Mais il nous dit que s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Et vous, si le Seigneur Jésus avait, quand il était sur la terre, s'il aurait été dans le temple pour aller officier dans le temple en tant que souverain sacrificateur, bien, on ne l'aurait pas laissé faire. Les sacrificateurs, les Lévites qui étaient là, n'auraient pas laissé le Seigneur Jésus entrer parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la famille d'Aaron. Il n'était pas selon le tour de sa classe, comme Zacharie était le tour de sa classe. Il lui était donné de pouvoir offrir le parfum. Eh bien, le Seigneur Jésus, lui, n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas des fils d'Aaron. Il ne pouvait pas remonter son pédigree pour démontrer qu'il venait d'Aaron, qu'il était souverain sacrificateur. Parce que lui, Il est le roi d'Israël. Donc, il est descendant de David, de la tribu de Juda. Puis, ce n'est pas la tribu qui avait reçu le mandat ou la qualification ou le service qui leur était donné. Ce n'était pas la tribu de Juda. C'était la tribu de Juda, elle produisait le roi. Mais c'était la tribu de Lévi, les fils d'Aaron, qui produisaient les sacrificateurs. On sait qu'un roi qui a voulu aller dans le sanctuaire, il a voulu aller offrir le parfum. C'est le roi Ozias. Puis, dans 2 Chroniques 26, verset 18, il parle des sacrificateurs qui se sont opposés à Ozias d'offrir le parfum. Puis, c'était des hommes courageux qui dit, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Puis il s'obstinait, il voulut continuer, puis là, la lèpre est apparue sur son front. Puis là, quand la lèpre est apparue sur son front, les sacrificateurs, ils l'ont pris tout de suite, puis lui-ci s'est dépêché à sortir du sanctuaire. C'est pour ça que si le Seigneur, comme il dit ici, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. C'est pour ça que. Mais le Seigneur, lui, Seigneur Jésus, est roi et sacrificateur, et c'est ce qui était prévu pour lui. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, qui lui était roi et sacrificateur, la signification de son nom. Ça s'était prévu pour nous montrer. C'est pour ça qu'il fallait que le Seigneur Jésus y ait un sacerdoce qui n'était pas celui d'Aaron et de ses fils, mais c'était un sacerdoce qui était plus excellent, qui était au-dessus du sacerdoce. Puis c'est pour ça qu'il nous a montré, quand il parlait de Melchisédek, que Melchisédek, c'est lui qui a béni Abraham. Puis il dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, parce que les fils d'Aaron, eux, descendaient d'Abraham, mais lui, Melchisédek, il ne descendait pas d'Abraham. Puis, il y a un sacerdoce qui était plus excellent, parce que il n'y en a pas d'autre qui était roi et sacrificateur à la fois. Et lui, Melchisédek, il l'était parce qu'il est un type du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, il est aussi Melchisédek. C'est pour ça que l'Écriture nous parle de Melchisédek. C'est pour ça que l'Écriture a rapporté un autre sacrificateur qui n'était pas de la descendance d'Aaron. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Donc, c'est pour ça que c'est juste à cause du Seigneur Jésus que ce sacrificateur-là, Melchisédek, apparaît comme ça dans l'Écriture, puis qu'il disparaît, puis il n'y a pas d'origine, puis il n'y a pas de fin, mais il n'y a pas un sacerdoce qui, il nous dit même dans le passage que les fils de Lévi, qui eux étaient les sacrificateurs, ont payé la dîme, parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek, puis eux, ils étaient encore dans les reins d'Abraham quand ils ont payé. Donc, eux-mêmes ont payé la dîme à Melchisédek. Voyez-vous comment l'Écriture fait en sorte qu'il y a vraiment un modèle pour nous parler du Seigneur Jésus, pour nous montrer la supériorité du Seigneur Jésus. C'est comme j'ai dit tantôt, si le Seigneur avait voulu officier dans le temple, ben les fils d'Aaron l'en auraient empêché tout de suite. Il n'aurait pas laissé rentrer. Le Seigneur avait pas, il n'aurait pas pu entrer dans le lieu très saint, dans le temple, parce que. Mais ça, c'était l'image. Mais dans le céleste, le Seigneur pouvait entrer. Puis c'est ce qu'il a fait. Il s'est offert lui-même. Puis le Seigneur est tout là-dedans. Il est le sacrifice, il est le sacrificateur, il est le sanctuaire, c'est lui qui détient l'alliance. C'est tout. Le Seigneur Jésus, toutes ces choses-là étaient différentes, mais pour donner des facettes de la gloire du Seigneur Jésus. Parce que c'est un peu comme nous autres, il nous dit qu'on va être comme le Seigneur Jésus dans l'éternité. Mais on ne sera pas la totalité de ce que le Seigneur Jésus est. On est le corps de Christ. Chacun, pour sa part, on va refléter une facette de la gloire du Seigneur Jésus. Mais lui, il est tout. puis toutes les choses, ben, c'est pour ça que la Bible, qui nous représente beaucoup de choses, ces choses-là nous parlent toujours d'une personne, le Seigneur Jésus. Comme dans le tabernacle, il y avait des choses qui, il y avait toutes sortes de choses dans le tabernacle. Mais chacune de ces choses-là représentait un aspect du Seigneur Jésus. Puis c'est pour ça que les meubles et la fourniture du temple et du tabernacle, ben, c'était des choses qui étaient faites de bois d'acacia qui représentaient son humanité incorruptible, qui était sans péché et qui était recouvert d'or qui nous parle de sa divinité. C'est quand on était dans le tabernacle, qu'on voyait les choses qui étaient là, ça nous parlait, toutes ces choses-là, ensemble, nous représentaient le Seigneur Jésus, comme nous autres, on fait partie, on est une habitation de Dieu en esprit, puis chacun de nous autres, dans cette nouvelle nature qui nous a été donnée, on reflète des gloires du Seigneur Jésus, un peu comme Joseph avec son côte de plusieurs couleurs. Vraiment, sa tunique de plusieurs couleurs, c'est vraiment une tunique de plusieurs facettes. C'est ça qui est vraiment la signification des plusieurs couleurs. C'est plusieurs facettes. Toutes ces facettes-là dans la tunique de Joseph reflétaient une des facettes de la gloire de Joseph. C'est comme ça, nous autres aussi, on reflète chacun pour sa part une facette de la personne du Seigneur Jésus-Christ dans cette nouvelle nature-là qui nous a été donnée. Puis quand on va être transformé, quand on va être rendu parfait pour l'enlèvement, dans un instant, dans un clin d'œil, mais là, on va vraiment refléter un aspect glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Puis tout ensemble, on va être là pour le faire connaître. On va être là pour le manifester. C'est pour ça qu'il nous dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, lorsqu'ils vont venir, quand ils viendront pour être admirés dans ses saints. Quand ils vont nous voir là, dans la présence du Seigneur Jésus, on va tout refléter la gloire du Seigneur Jésus. Puis ça, c'est important. Mais on dit, si le Seigneur avait voulu officier dans le temple, les fils d'Aaron l'auraient empêché. Mais le temple, dans un sens, le temple n'était pas assez grand. Il n'était pas assez pur pour qu'il soit sacrificateur. Seigneur ne pouvait pas être sacrificateur de quelque chose qui était image et ombre. Seigneur Jésus était plus grand, il était un plus excellent sacrificateur. Donc, il ne pouvait pas officier dans ce qui était seulement une image, dans ce qui était seulement une imitation. Lui, il pouvait officier dans la réalité. Puis, il est le seul qui pouvait. Les fils d'Aaron ne peuvent pas officier dans ce qui est la réalité, dans ce qui est le plus grand, le plus excellent sanctuaire. Mais le Seigneur Jésus, lui, est un plus excellent, selon l'ordre de Melchisédek. Lui, maintenant, lui, il peut s'approcher de la présence même de Dieu pour nous, parce que c'est pas, c'est la, lui, il est dans la réalité. C'est pour ça que son ministère, il est tellement supérieur à celui d'Aaron. C'est ce qu'on avait vu dans le verset 5, là. Il dit, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Fait que le Seigneur Jésus ne pouvait pas officier dans le temple parce que c'était pas assez. C'était pas assez grand. Parce que lui est tellement grand, tellement supérieur, tellement plus excellent, avec un sacrifice. Et vous, le Seigneur Jésus, ne pouvait pas amener son sang dans le sanctuaire terrestre, mais il pouvait l'amener dans le sanctuaire céleste. Parce que c'est un sang, parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait jamais ôter les péchés. Il couvrait les péchés pour un temps. Puis à chaque année, il fallait toujours offrir ces sacrifices-là, il fallait toujours recommencer. On avait toujours besoin de recommencer tout ce processus-là. Mais lui, une fois pour toutes, il n'a jamais besoin, le Seigneur Jésus n'a jamais besoin d'être sacrifié une autre fois. Il a été sacrifié une fois pour toutes et comme par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voyez-vous la grandeur, la supériorité ici du Seigneur Jésus. Ensuite de ça, on regardera cette nouvelle alliance-là qui est plus excellente aussi à partir du verset 6 du chapitre 8. Et à ce moment-ci, je vais m'arrêter, donner le temps de pouvoir de pouvoir faire des commentaires ou là, je vous donne la possibilité de pouvoir reprendre votre micro. Fait que si vous avez des commentaires, des questions, bien, on va prendre un temps ensemble pour regarder ces choses-là.
C'est mute ou un...
Ouais, vous pouvez reprendre votre micro.
J'aurais encore une question ou deux. La semaine passée, je reviens un petit peu concernant Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 6.
OK.
Il est à question de certaines personnes qui sont allées très, très près de la porte pour entrer au ciel, en fin de compte,
Oui.
et qui ont tourné de côté, ils ont viré de bord. Donc, ce sont des gens qui, c'est pas des gens qui t'ont sauvé, c'est des gens qui sont pas parvenus au salut. Mais on pourra dire, est-ce qu'on peut utiliser à ce moment-là que ce sont des gens qui ont apostasié?
Ouais. Ouais.
On pourra utiliser ça,
Ouais, c'est des
l'apostasie.
apostats. Ouais, c'est
OK.
des apostats, ouais.
OK. Mon autre question, c'est que.
Et en tant qu'apostat, on a l'exemple dans la parole de Dieu d'un apostat puis d'un rétrograde. Des fois, ça, à nos yeux, un apostat et un rétrograde se ressemblent. Mais aux yeux de Dieu, il y a la différence. On pense à Pierre. Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois, lui était un rétrograde. Mais Judas qui l'a livré, lui était un apostat.
OK, merci. Tu as parlé du tabernacle, c'est intéressant, parce que moi, quand je lisais ça, je trouve ça difficile à comprendre, les cérémonies dans l'Exode, là. Mais Moïse avait vu ça dans le ciel. C'était plus facile pour lui, disons, de faire comprendre au peuple, là, comment ça devait être construit. Mais dans l'Apocalypse, quand on lit chapitre 21, on voit que le tabernacle qui descend du ciel. Apocalypse 20. Si je prends par exemple Apocalypse, on va lire les quatre premiers versets, si tu veux bien. Alors, ça dit, puis je vis un nouveau ciel, Apocalypse 21, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, c'est probablement ce tabernacle-là qui descend du ciel, hein?
Ouais. C'est ça parce que le tabernacle, ça veut dire le tabernacle, c'est une tente. C'était que Dieu voulait demeurer avec l'homme. Mais à cause du péché, Dieu ne pouvait pas, il était au milieu d'eux, mais il ne pouvait pas s'approcher de lui dans le tabernacle sur la terre, là, parce qu'il y avait des degrés, là. Il y avait les gentils pouvaient venir à un certain endroit. Les Juifs un peu plus proches, les fils de Lévi plus proches, le souverain sacrificateur plus proche. Mais maintenant, à cause du fait que le péché va être enlevé complètement, il y aura plus, ça va être la pureté même, là, Dieu va pouvoir demeurer, il va pouvoir comme mettre sa tente parmi son peuple. C'est la présence de Dieu même. Ouais.
Ça va, parce que je me demandais si ça descendait avec tous les meubles comme autrefois, là.
Ben c'est
Non.
ça, tous ces meubles-là qu'on voyait, c'était des images et ombres. Tandis que là, ça va être la réalité, là, c'est vraiment
Ça
Dieu.
va. Merci, Joël. Gérald,
Oui.
est-ce que le temple du millénium, qui est, moi j'avais dans l'idée qu'il était fait par le Seigneur, le peuple avec tout le système lévitique va revenir dans le millénium d'une façon plus complète, j'imagine plus parfaite, avec le retour du Seigneur sur la terre. Mais on a comme, c'est sûr qu'on On reste toujours avec l'idée qu'il n'y aurait plus besoin de sacrifice à ce moment-là, mais il reste que la parole de Dieu nous dit que le retour des sacrifices va être là.
Ça. Mais ça ne sera pas encore la perfection là, dans le millénium. T'sais. Puis c'est sûr que c'est un sujet, on se demande pourquoi revenir au sacrifice quand il y a déjà eu le sacrifice de Christ qui est plus excellent, que ces sacrifices-là étaient seulement une image et ombre du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais une des explications que moi je vois plausible, c'est que c'est un peu comme si Dieu. Parce que là, Israël va être à la tête des nations, puis les gens vont apprendre. Le tabernacle qui avait été fait sur la terre, c'était pour enseigner les gens que la sainteté de Dieu, le sacrifice qui pouvait nous faire entrer en contact avec Dieu. Mais c'est comme si Dieu voulait leur montrer maintenant ce que vous n'avez pas compris dans l'Ancien Testament, là, je vais vous l'expliquer maintenant dans la réalité. Ayant le sacrifice de Christ, ayant les choses réelles qui ont été faites, maintenant, en passant par ce système-là qui était auparavant, parce que là, on n'est pas encore dans l'éternité, on est encore, puis il y a encore du péché sur la terre, il va y avoir des pécheurs encore sur la terre. Dieu ne peut pas habiter pleinement encore. Le Seigneur Jésus va être sur le trône, puis il va régner avec une verge de fer. Mais moi, je trouve que l'explication la plus plausible, c'est que de maintenant, avec la connaissance de la réalité, ils vont pouvoir le voir dans ce qui avait été donné dans l'Ancien Testament, ce qu'ils auraient dû comprendre. On sait que dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait dit à Abraham, les promesses qu'il a faites n'ont jamais été, puis même à David, l'alliance avec David, toutes les choses que le Seigneur a fait, la promesse dans l'Ancien Testament, bien, ils n'ont jamais possédé pleinement. Mais dans le millénium, là, le Seigneur, c'est lui qui va être le fils de David. C'est lui qui va être le meilleur roi. Il va avoir le meilleur royaume. Il va avoir la justice, parce que si le péché va être jugé sur le champ. Puis c'est un peu comme pour leur montrer, regarde, c'est ça que ça voulait dire, là.
Il reste que dans le millénium, le temple sera pas uniquement pour le peuple juif, il va être pour toutes les nations parce qu'ils vont dominer les nations. C'est comme si l'histoire revenait puis qu'il y avait comme, je dirais entre guillemets, là, une deuxième chance, puis que là, ils vont l'annoncer à tous les peuples qui vont être sur la terre à ce moment-là. Ils vont leur montrer la perfection.
C'est ça, ce qu'ils n'ont jamais fait.
Merci.
Ils n'ont jamais fait le service parfait que Dieu voulait qu'ils fassent. Parce qu'il était supposé d'être pour les nations, d'enseigner les nations. Il était un peu choisi pour pouvoir enseigner les nations à propos de Dieu. Puis on voit que dans le temps de Salomon, ben, la reine de Séba est venue. Puis pour voir, c'était ça qui était supposé. Israël était supposé d'avoir, de démontrer la réalité de Dieu. Puis que les nations soient attirées. Mais au lieu de ça, ils se sont regroupés ensemble, puis ils ont vu les gens du dehors comme des chiens, puis des gens qui ce fait qu'ils ont manqué. Dans le millénium, là, ils vont faire ce qui est dit, que des gens des nations vont prendre un juif par le pan de son manteau, puis vont lui dire, enseigne-nous la voie sainte. Puis là, ils vont le faire, comme ils étaient supposés de le faire avant. Parce que c'est quand même le peuple de Dieu, c'est un peuple que Dieu a choisi pour se révéler. C'est ça qu'on manque des fois de comprendre. On pense, OK, il a choisi Israël à l'exclusion des nations. Non, il a choisi Israël pour rejoindre les nations. Là, il
Ça
va les
marche
rejoindre.
aussi.
Ouais.
C'est dit aussi dans Apocalypse 21, là, que la Nouvelle Jérusalem va descendre. Puis il dit, et je ne vis pas de temple. 21-22, là. En elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple.
Ouais.
C'est lui le temple.
C'est ça, ben oui.
Exactement.
Ça, c'est dans les nouveaux cieux, une nouvelle terre.
Oui.
Ce
C'est
n'est
ça.
pas à la même époque dans le
22.
millénium.
22.
Ça, c'est ça, oui. Parce que le temple, dans le temple, puis le tabernacle, ben, avec tout comme son parvis, avec ses portes, avec ses voiles, il empêchait le pécheur. C'était comme une protection. Dieu vivait, mais il fallait que le peuple soit protégé. Il ne pouvait pas voir Dieu puis vivre. Mais maintenant, il n'y aura plus de protection. Que le peuple, les gens, les croyants qui sont sauvés, ils vont être purifiés, parfaits, puis ils vont pouvoir C'est pour ça que dans Ésaïe 33, il dit, qui peut demeurer auprès d'un feu dévorant?
Oui.
Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Mais un coup qu'on est purifié, qu'il n'y a plus de péché en nous, on peut demeurer auprès d'un feu dévorant parce qu'il n'y a plus rien à consumer. On est parfait, on est dans sa présence, puis on peut tolérer, ou peut-être pas tolérer, mais on peut se réjouir, puis profiter pleinement de la majesté, de la sainteté, de la beauté de Dieu. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de... Parce que nous autres, même maintenant, par la foi, on entre au-delà du voile. On entre dans la présence de Dieu, mais dans ce temps-là, ce ne sera pas par la foi, ça va être par la réalité. C'est des grandes choses quand on voit, on s'arrête à regarder à cette épître-là, l'épître aux Hébreux, là, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, c'est sûr que c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais il nous fait entrer dans des vérités, dans des grandeurs merveilleuses. Là, si on n'avait pas, c'est comme un commentaire inspiré de l'Ancien Testament. Là.
En tout cas, on n'est pas au lait avec l'épître aux Hébreux.
Oh non!
On
Non,
n'est pas au lait avec l'épître aux
non. Non, on n'est pas au lait, non.
C'est un
On
rosaire à 5 étoiles.
est dans la nourriture solide. Mais c'est merveilleux que ces choses-là, il les a écrites pour nous. Il veut qu'on entre dans ces choses-là. C'est ça qu'il dit, de ne pas s'arrêter aux choses élémentaires. OK, on a passé, c'était important, les choses élémentaires, mais il faut avancer. Il faut profiter de tout ce qui nous a été donné. C'est là qu'est notre grande joie, c'est là qu'est notre victoire, c'est là on entre là-dedans par la foi.
Puis un jour, on va savoir avec certitude c'est qui a écrit l'Épître aux Hébreux.
Ah
C'est
oui,
ça?
c'est sûr. Oui,
On va
non,
arrêter de se tromper.
là,
Les
on
avis
va
sont
dire, ah,
clairs.
c'est toi qui écris ça.
Les grands curieux vont être satisfaits. Oui.
Les sceptiques seront confondus. Oui, c'est certain.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'Apocalypse, là, c'est comme, on dirait que. Elle nous est comme révélée dans ces temps ici, parce qu'il me semble qu'il y a 15, 20, 30 ans, l'Apocalypse, c'était un peu mystérieux plus qu'aujourd'hui.
Ben c'est sûr que la prophétie, c'est comme ça. La prophétie, quand elle s'accomplit, il n'y a pas d'ambiguïté. Avant qu'elle s'accomplisse, des fois, il faut se demander est-ce que c'est littéral, est-ce que c'est figuratif. Mais quand elle s'accomplit, ben là, on voit vraiment. On voit même là, que, tu vois, il nous parle de la bête dans l'Apocalypse, les bêtes. Mais pourquoi qu'il dit des bêtes et pas des hommes? Mais là, on voit avec l'intelligence artificielle, on est en train de créer un surhomme là, qui. 666, le chiffre de l'homme. Puis ils disent maintenant aussi, ils disent que l'intelligence artificielle, c'est un Dieu que nous, on a créé. Le Dieu que les gens priaient, il n'existe pas, mais celui-là, on sait qu'il existe parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc, c'est le résultat de la connaissance de l'homme qui a été mis dans cette intelligence artificielle-là. Puis là, on est en train de la mêler avec la génétique, la technique avec la génétique. Fait que ça va être. Ça va être une bête.
Notre tour de Babel.
Ouais, c'est ça. Bon, mais notre temps est arrivé, c'est qu'on va terminer par un mot de prière. Puis s'il y en a qui veulent continuer, on peut jaser encore, mais sinon, ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ce que tu nous fais entrer dans ces choses qui sont si merveilleuses, notre Dieu, cette épître aux Hébreux qui nous ouvre les yeux sur les choses grandes et célestes et éternelles. Merci Seigneur, parce que oui, on peut regarder dans le passé, dans les choses qui étaient images et ombres des choses à venir, mais maintenant, notre Dieu, on entre vraiment dans le sanctuaire céleste par la foi maintenant, puis pour un jour y entrer dans la réalité. Merci Seigneur pour des choses si grandes. Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble ce soir. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.